Faut-il faire primer à tout prix la Constitution suisse sur le droit international, quitte à dénoncer, si nécessaire, des traités passés avec d'autres États? Nous voterons dimanche 25 novembre sur l'initiative pour le droit suisse au lieu des juges étrangers. Et c'est notre débat du jour dans Place Publique. Bienvenue.
Jusqu'à 19h, Place Publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. L'UDC part en croisade contre les juges étrangers. Le sort de son initiative est pour l'heure incertain. Un dernier sondage Tamedia daté de ce jour donne le nom en tête pour 53% des personnes interrogées. 44% d'entre elles soutiennent le texte et il reste 3% d'indécis. Alors pour vous aider à vous forger votre propre opinion, on vous propose un grand débat avec plusieurs invités. Avec nous au studio de RFJ, Pierre-Alain Fridé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller national socialiste jurassien, bienvenue. En direct de Tavannes à RJB, Manfred Buller est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller national UDC bernois. Charles Constantin est également avec nous, studio de RTN. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la direction de la Chambre neuchâteloise de commerce et de l'industrie. Vous représentez donc les milieux économiques. Enfin avec nous aussi, Kevin Grangier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint au centre de presse du Palais fédéral. Vous êtes membre du comité de l'ASIN, Action pour une Suisse indépendante et neutre. Et à vos côtés, Jérôme Favre, notre correspondant au Palais fédéral. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Nous entendrons également les intervention de Manon Schick, directrice de la section suisse d'Amnesty International, d'Olivier Delacreta, président de la Ligue vaudoise, et enfin de Pascal Mahon, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Neuchâtel. Les présentations sont faites. Je vous propose avant toute chose de prendre brièvement connaissance de la teneur de cette initiative dont on va débattre. C'est avec Marcel Neuenschwander.
L'initiative populaire « Le droit suisse au lieu de juges étrangers », appelée aussi « Initiative pour l'autodétermination », veut permettre une stricte application de la volonté populaire. Si le peuple accepte une initiative incompatible avec un traité international, la Confédération et les cantons sont tenus d'adapter le dit traité, voire de le dénoncer si les négociations avec les États concernés échouent. À noter que les traités internationaux approuvés par le peuple ne peuvent pas être remis en cause. De même, les règles impératives internationales, comme la prohibition de la torture, du recours à la force entre États, le respect des règles humanitaires. Pour les partisans de l'initiative, ce texte protège la démocratie directe et renforce la sécurité du droit, sans mettre en danger le succès du modèle suisse. Il permettrait même à notre pays d'accroître sa capacité à s'autodéterminer. À l'inverse, les opposants estiment que le texte nuit à la sécurité du droit et aux intérêts de la Suisse. En menaçant des traités internationaux, notre pays serait plus dépendant que jamais des autres parties. L'initiative affaiblirait ainsi notre place économique et la protection des droits de l'homme.
Et j'ajoute que le Conseil national et le Conseil des États ont tous deux dit non à l'initiative sans proposer de contre-projet. Jérôme Favre, il faut le rappeler aussi, cette initiative dite des juges étrangers a été déposée il y a plus de 3 ans dans un contexte bien particulier.
Il y a même un double contexte, on pourrait le dire. Il y a d'un côté ou d'une part les initiatives qui n'ont pas été pleinement appliquées, qui laissent peut-être un sentiment de frustration, peut-être sur le renvoi des étrangers criminels, ou on peut aussi penser à l'internement à vie des délinquants sexuels, où là, le tribunal fédéral notamment a dit, dans certains cas, on ne peut pas l'appliquer pleinement car ça s'oppose à des règles de droit international. Il y a ce contexte-là. Et puis il y a bien sûr le contexte du dossier européen, qui est un contexte que l'UDC ou un dossier que l'UDC aime bien, dont elle aime bien s'emparer. Il y avait d'une part déjà les prémices des discussions sur un accord cadre avec l'Union européenne, la reprise du droit européen. La Suisse est parvenue à négocier un tribunal arbitral en cas de conflit. Ce ne seraient plus des règles imposées par l'étranger. On a pu ainsi évacuer du côté du Conseil fédéral la notion de juge étranger. D'ailleurs, on utilise de moins en moins cette dénomination-là pour cette initiative. On parle désormais plutôt d'une initiative pour l'autodétermination. Et on sait que l'UDC aussi a un certain sens du calendrier. Il y a peut-être une manière là de lancer déjà un certain combat, peut-être contre l'accord cadre avec l'Union européenne, si jamais un accord cadre devait être présenté, ou en tout cas de se positionner une fois de plus sur le dossier européen à quelques mois, un peu moins d'une année, des élections fédérales.
Merci beaucoup Jérôme Favre. Vous restez avec nous, vous écoutez le débat et on vous retrouve en fin d'émission. Manfred Buller, on démarre avec vous. En quoi une telle initiative serait utile, sachant que la Suisse conclut librement des traités et plutôt à son avantage et qu'elle peut à tout moment les dénoncer? De plus, le peuple a son mot à dire sur les sujets importants.
Oui, malgré ça, effectivement, je crois que l'initiative est utile dans des cas assez particuliers et heureusement rares également, où le peuple peut éventuellement, plus tard, après avoir signé un traité international, prendre une décision qui va, sur un point particulier, peut-être s'y opposer ou être en contradiction apparente ou pas avec ce traité. L'exemple, c'est par exemple l'expulsion des criminels étrangers. Nous avons plusieurs traités, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit par exemple le droit à la vie de famille et la libre circulation des personnes. Et en expulsant les criminels étrangers, selon l'initiative qui a été validée par le peuple, eh bien, certains tribunaux ont estimé que ces expulsions, dans certains cas, violaient soit la garantie du droit à la vie de famille, soit la libre circulation des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui nous déplaît, parce que nous estimons qu'ainsi, la volonté populaire, au fond, une volonté populaire légitime, qui s'est exprimée dans les urnes, après un débat politique approfondi, que cette volonté populaire n'est pas respectée. Ça, c'est mauvais, c'est un poison pour la démocratie.
Pierre-Alain Fridé, cette initiative promet que la volonté populaire sera scrupuleusement respectée. Est-ce que ce n'est pas un objectif louable ?
Monsieur Buller, tout à l'heure, a donné un exemple concernant l'initiative sur l'expulsion des criminels étrangers. Il a donné des exemples qui lui parlaient, notamment le fait que la notion de regroupement familial, la notion effectivement de libre circulation des personnes pouvait poser problème par rapport à cette initiative. Mais tout simplement, cette initiative ne permet pas une chose essentielle, à savoir l'utilisation pour les juges de la notion de proportionnalité. Et là, on est en fait dans une initiative qui sert avant tout l'UDC pour une campagne électorale, pour de nouveau mettre en avant ces critères, parce que pour développer cette notion de proportionnalité, le droit supérieur européen, la Cour européenne des droits de l'homme, donne quelque part la possibilité, comme le souhaitent les juges suisses, de pouvoir décider, non pas de manière stricte, en fonction d'une notion de crime et d'étranger, on a une expulsion, mais quel est le crime, quelle est son importance, l'étranger est-il quelqu'un qui est en Suisse depuis peu de temps, l'étranger est-il quelqu'un qui n'a jamais vécu dans son pays d'origine, qui est un secundus, de la troisième génération, tous ces éléments-là doivent être pondérés, et en fait, quelque part, l'UDC veut une stricte application de textes qui sont inapplicables. Et maintenant, il se lance dans une campagne à but électoral pour effectivement enfoncer le clou et puis dire que le respect du droit des gens, du peuple suisse n'est pas respecté. Je crois que le peuple suisse a accepté des principes. Ces principes sont des principes supérieurs, essentiels. Et il faut effectivement refuser cette initiative.
Kevin Grangier, que ce soit dans le commerce, les marchés publics, les normes techniques, la protection des droits de l'homme ou encore la sécurité, la Suisse est liée par quelques 5000 traités et le peuple ne semble pas trouver à redire. Depuis 1977, la Confédération précise que les 6 traités attaqués par référendum ont été acceptés par le peuple. Alors pourquoi, selon vous, il serait utile de changer les règles ?
En fait, il est utile, il est même central aujourd'hui de remettre le peuple au centre et au sommet de la décision. En fait, cette initiative, elle est très simple à comprendre. Elle dit simplement que, en dernier recours, c'est la décision du peuple qui l'emporte. C'est une question de normes. Il n'est pas question dans cette initiative de dénoncer des accords. Il n'est pas question dans cette initiative de s'en prendre à la stabilité économique de la Suisse ou tout autre danger dont les opposants de l'initiative nous abreuvent quotidiennement. Il est simplement question de dire qu'à la fin, c'est le peuple qui a le dernier mot. Voilà cette initiative, ce qu'elle dit.
Charles Constantin, au nom de l'économie, vous combattez cette initiative. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une majorité de citoyens suisses sauront faire la part des choses et préserver les intérêts des entreprises ?
Tout à fait. Alors, je pense que le peuple suisse sera sage et refusera cette initiative. En tant que membre de la direction de la Chambre du commerce, j'ai la tâche, trimestre après trimestre, de présenter les objets qui vont être soumis aux votations. Et ce qui m'impressionne, depuis que je travaille à la Chambre du commerce, c'est que pour les 20 prochaines années, nous avons les dates des 4 scrutins. Et cela signifie qu'on accorde une grande importance à la démocratie directe et aux droits de nos concitoyens.
Mais si cette initiative est acceptée, est-ce que vous ne croyez pas que le peuple saura faire la part des choses pour préserver les intérêts de l'économie que vous défendez ?
Alors ce serait un cataclysme si cette initiative était acceptée, parce que finalement, s'il faut dénoncer des traités qui ont été validés, ce sont les autorités qui doivent le faire, et le peuple, finalement, n'a pas le choix.
Si les règles impératives du droit international ne sont pas remises en cause, la Convention européenne des droits de l'homme, on en a parlé brièvement à l'instant, pourrait être dénoncée en cas d'acceptation de l'initiative. C'est une attaque jugée inacceptable pour la directrice de la section suisse d'Amnesty International. Je vous propose d'écouter Manon Schick.
C'est clairement une attaque contre la Convention européenne des droits de l'homme. Même si les initiants font aujourd'hui ceux qui disent que non, il n'y a pas de remise en cause de cette convention, en l'occurrence, c'est une attaque directe. Et ils ont récolté des signatures en disant qu'ils allaient demander à la Suisse de dénoncer cette Convention européenne des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, ils se rendent compte que ces droits sont quand même bien ancrés dans la tête des Suisses et des Suissesses, que les gens ne veulent pas qu'ils soient remis en cause, donc ils font une campagne sans mentionner cette convention. Je crois qu'il ne faut pas se laisser tromper, hein, ni se laisser manipuler. Très clairement, c'est cette convention qui est visée.
Et pour vous, il est important de souligner aussi qu'on parle de juges étrangers, mais au sein de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, siègent aussi des juges suisses.
Oui, la Suisse est en fait représentée au sein de la Cour de Strasbourg avec deux juges. Deux juges suisses parce que, en fait, c'est un juge suisse qui représente le Liechtenstein. Donc on peut même dire que la Suisse est un pays privilégié puisque nous avons deux juges alors que la majorité des autres États n'ont qu'un seul juge. Les juges suisses sont toujours impliqués, la juge suissesse Hélène Keller est toujours impliquée dans les décisions qui concernent la Suisse. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de juges étrangers, il s'agit de juges internationaux auxquels nous demandons de se prononcer quand la Suisse est concernée. Et on le voit par le passé, la Suisse a été très peu condamnée. Hein. Il y a eu à peu près 7000 requêtes qui ont été faites par des personnes vivant en Suisse auprès de la Cour européenne de Strasbourg. Et dans une infime proportion de cas, la Suisse a été condamnée. C'est moins de 2% des cas.
Et on pourrait se dire que si ça concerne qu'une minorité de cas, c'est finalement pas si grave de dénoncer ce traité ?
On pourrait se le dire. Et en même temps, les cas qui ont été jugés sont des cas extrêmement importants parce qu'ensuite, ces cas vont faire jurisprudence et vont être appliqués en Suisse. Prenons le cas de l'amiante. Ce monsieur qui a découvert qu'il avait un cancer lié à son activité de mécanicien, et puis il est décédé, et sa famille a fait recours jusqu'à Strasbourg, parce que le tribunal fédéral avait dit, il y a un délai de prescription de 10 ans, vous ne pouvez pas demander des dommages et intérêts. Et eux sont allés jusqu'à Strasbourg, et la Cour européenne a dit, non, 10 ans c'est trop court dans le cas de cancer lié à l'amiante, parce que ce sont des cancers qui se développent bien plus tard. Et donc, ils ont demandé à la Suisse de réviser sa pratique, et aujourd'hui, des personnes qui développeraient un cancer lié à une exposition professionnelle à l'amiante, eh bien, ils auraient un délai de prescription qui ne serait pas du tout 10 ans. Ils pourraient faire recours encore jusqu'à 30 ans. Donc on voit que c'est très important parce que ça affecte la jurisprudence ensuite de nos tribunaux.
Manfred Buller, une réaction pour Manon Schick, qu'il s'agit d'une attaque frontale contre la Cour européenne des droits de l'homme avec le risque de priver le justiciable suisse d'une voie de recours.
Oui, j'entends bien ces reproches. On est à la limite de la fake news, de l'infox pour parler français. C'est vraiment incroyable de voir les opposants et leur hystérie dans ce cadre-là de faire croire qu'on veut dénoncer cette convention. Alors, je nie pas que peut-être certaines personnes isolées dans mon parti ou ailleurs souhaiteraient la dénoncer, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas et ce n'est pas du tout le cas de la majorité des gens qui soutiennent cette initiative, encore moins de la majorité du Parlement et encore moins de la majorité du Conseil fédéral, donc on ne risque vraiment rien. Et je crois qu'il faut comprendre le mécanisme de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr, si la Suisse est condamnée, parfois ça nous déplaît, parfois ça nous plaît aussi, parce qu'effectivement certains de nos droits peuvent être protégés de cette manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse ensuite est libre de mettre ça en œuvre dans son droit interne ou pas. Et si elle ne le fait pas, éventuellement, les gens peuvent encore demander des indemnités. Mais il est aussi possible, en cas de contradiction, typiquement, je reprends l'exemple de mon criminel étranger qu'on n'expulse pas à cause, par exemple, de la protection de sa vie familiale, la Suisse pourrait très bien dire, au lieu de ne pas mettre en œuvre ce que recommande Strasbourg, qu'on émet une réserve par rapport à certains droits, par exemple pour appliquer cette initiative populaire qui a quand même été validée par une bonne proportion de la population, et ça ne nécessite absolument pas de dénoncer la convention. Ça, c'est clairement un danger qui est irréel actuellement.
Pierre-Alain Fridé, ça vous rassure, hein, on le signale pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Vous faites partie de la délégation parlementaire auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Quel est votre point de vue sur ce risque de voir la CEDH abrogée ?
Écoutez, je crois que monsieur, mon collègue Buller joue au gentil. Mais la volonté, elle est quand même très claire. L'UDC, en fait, utilise la voie d'initiative pour promouvoir ses positions avec régulièrement des textes limites, des textes très populistes. Alors on a l'internement à vie des délinquants sexuels, l'expulsion des criminels étrangers, cette histoire de minaret qui pose de grands problèmes par rapport au droit confessionnel qui est reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc clairement, si l'UDC continue sur cette voie, et on voit toutes les difficultés que ça pose, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas alors cette notion de conflit entre le droit suisse et le droit international, où les autorités suisses seraient en fait obligées d'entrer en négociation avec ses autres partenaires pour pouvoir modifier, demander qu'on modifie les obligations du droit international et que ces obligations soient adaptées au droit suisse. On est dans de la pure science-fiction, mais si on ne le fait pas, si l'UDC, si le peuple suisse écoute ce parti, on pourrait se trouver dans des situations où, à un moment donné, les négociations échoueraient, puis on devrait dénoncer, en fait, de tels accords. Et il faut savoir que la Convention européenne des droits de l'homme est en fait absolument pas protégée parce que à l'époque, en 1974, quand la Suisse y a adhéré, il n'y a pas eu de référendum facultatif obligatoire et donc pas de vote, pas de possibilité parce qu'à l'époque, ce n'était pas la pratique. Donc pour nous, c'est une menace très très claire et à travers ces initiatives répétées qui sont des initiatives populistes qui en fait enfreignent les règles fondamentales du droit, on aurait des problèmes. Et pour moi, le plus grand risque, c'est ce que Mme Schick a dit, c'est qu'effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un moyen pour n'importe quel justiciable suisse de pouvoir, s'il n'est pas content de la décision de la justice de son pays, de porter l'affaire devant un tribunal supérieur. C'est le cas de tous les citoyennes et citoyens dans les 47 pays du Conseil de l'Europe. Et c'est vraiment un droit fondamental très important.
Kevin Grangier, on entendait tout à l'heure Manfred Buller dire mais on n'est pas du tout pour l'abrogation de cette convention. Or, il semblerait, pour certains observateurs, que la campagne a démarré sur ce cheval de bataille. Que répondez-vous ?
Que tout simplement, c'est un argument qui n'existe que dans la tête, dans le délire des opposants de cette initiative. Le texte de l'initiative ne prévoit explicitement pas le fait de se retirer de la CEDH. Notre texte dit simplement que la Constitution est la source suprême du droit. Or, la Constitution ne dit pas qu'il faut se retirer de la CEDH. Et pour modifier cette source suprême du droit que nous voulons retrouver dans la Constitution, il faudrait une majorité populaire. Et aucun parti représenté au Parlement ne demande que la Suisse sorte de la CEDH. Alors, ça fait véritablement beaucoup d'arguments pour bétonner le fait qu'il n'y a pas de volonté de sortir de cette convention européenne, qu'il n'y a pas de volonté de nuire aux droits humains en Suisse.
Mais vous comprenez quand même que l'appellation même de cette initiative sur les juges étrangers...
Malheureusement, M. Fridé...
C'est incorrect ce que vous racontez.
Ce que M. Fridé et ses partisans politiques se sont tellement auto-persuadés de leur mensonge au sujet de qui était l'UDC, qui sont ses membres durant tant d'années, qu'aujourd'hui ils croient leur mensonge. Là est le problème avec cet argument sur la CEDH.
Kevin Granger,
il y a une disposition transitoire qui dit clairement que les anciens textes, ceux qui sont en vigueur actuellement, peuvent être concernés, donc il y a un effet rétroactif et la Convention européenne des droits de l'homme est directement concernée.
Monsieur Fridé, il n'est pas inscrit dans cette initiative que nous devons dénoncer quoi que ce soit, à aucun moment.
Est-ce que
ça, c'est la possibilité.
Permettez-moi, est-ce que l'appellation juge étranger n'induit du coup pas en erreur les électeurs, Kevin Grangier, les votants ?
Non, ça n'induit pas en erreur. Comme j'ai dit, c'est une question de norme. À la fin, vous devez savoir qui décide en dernier cours. Il ne s'agit pas de dire c'est la démocratie directe à l'exclusion du droit international, c'est la constitution à l'exclusion de la CEDH ou de d'autres conventions. D'accord ? Tout ça va rester en place après le 25 novembre, même en cas de oui. La question, c'est de savoir si, quand le peuple suisse prend une décision, si cette décision est suivie d'effet, si elle peut entrer en vigueur. Ce que nous avons constaté, et c'est pas nouveau, parce que on peut aussi citer l'initiative des Alpes, et ça on remonte à plus de 20 ans, 25 ans en arrière, ces initiatives ne sont pas appliquées à chaque fois au prétexte que des conventions internationales ne permettent pas de l'appliquer tel que le peuple a choisi. Dans ce cas-là, on se moque des gens, et je suis pas d'accord que les Suisses soient insultés de la sorte, qu'on les fasse se déplacer les dimanches pour voter, prendre une décision, puis qu'ensuite on leur dit, écoutez, non, votre décision ne nous plaît pas ou pas intégralement, donc on n'appliquera pas parce qu'on peut prétexter tel ou tel accord.
Pour conclure sur cet aspect de la Convention européenne des droits de l'homme, Charles Constantin, du côté de l'économie, la protection des droits humains, c'est aussi un enjeu.
Alors, c'est un enjeu. Et on voit aussi d'un très mauvais œil le doute qui plane par rapport à cette Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a un terme qui a été utilisé, c'est justiciable suisse. Et il est aussi important de dire que les entreprises sont aussi des justiciables suisses et qu'on peut recourir jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme.
Parmi les soutiens de cette initiative, on trouve la Ligue vaudoise. C'est un mouvement fédéraliste hors parti qui est attaché à la souveraineté des cantons et à l'indépendance neutre et armée de la Confédération. On écoute son président, Olivier de la Créta, pour qui la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas mise en péril par une telle initiative.
Pour ce qui est de la renégociation de la Convention européenne des droits de l'homme, ce n'est évidemment pas encore fait. Il faudrait que la Suisse promulgue une loi ou un article constitutionnel frontalement opposé à une exigence de la CEDH. Or, comme dans la Constitution même, de toute une série d'articles, les droits de l'homme sont également prévus, on peut considérer que les lois et les articles constitutionnels votés par le Parlement et acceptés par le peuple des cantons sont conformes aux droits de l'homme. Pour ce qui est d'une voie de recours, c'est moins de 2% des cas et il n'est pas certain que quand il aboutit, ce soit réellement une justice meilleure. On pense trop facilement que la justice est meilleure quand elle émane d'une juridiction qui a un plus grand territoire. Ce n'est pas forcément le cas. Au contraire, on peut penser qu'il est bon que la justice ne soit pas trop éloignée des conditions naturelles du peuple auquel elle s'applique.
La Suisse a besoin de ses partenaires, notamment l'Europe, pour sa prospérité. Est-ce que vous craignez pas qu'en adoptant une telle initiative, la Suisse se retrouve en délicatesse avec un droit instable et des intérêts qui pourraient être attaqués ?
Alors, on nous présente la chose comme si le Conseil fédéral avait signé 400 ou 500 accords économiques qui étaient anticonstitutionnels. Moi, je crois que pour la plupart, ça ne fait absolument aucun problème. Ils sont parfaitement stables et ils subsisteront. Qu'il y en ait un ou deux qui soient remis en question, qui puissent être réexaminés, peut-être renégociés, pour moi, ce n'est pas un problème s'ils ne sont pas très bons pour nous. Et puis, de toute façon, vous voyez, l'économie, ça va et ça vient, mais ce qu'on perd en souveraineté, quand un petit État perd de la souveraineté, il ne la recouvre jamais. Il y a donc une sorte de primauté, là, de nouveau, du politique sur l'économique que je crois important d'affirmer.
Charles Constantin va vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre. Cette initiative ne remet pas en cause directement les quelques centaines de traités économiques qui lient la Suisse à d'autres États. Comment vous appréciez cette remarque qui devrait vous rassurer ?
Elle ne me rassure pas du tout parce que lorsqu'on lit le texte de l'initiative, il y a un risque qui plane.
Mais des entreprises, des entrepreneurs, on les a entendus récemment, qui estiment, dont la fille de Christophe Blocher, que cette initiative permettrait aux entreprises de s'affranchir des incessantes réglementations bureaucratiques qui ne cessent d'enfler. Ça ne vous parle pas ?
Alors, ça me parle. Effectivement, la fille de Christophe Blocher et un mouvement s'est constitué pour défendre cette initiative, mais l'économie n'est pas divisée. L'USAM qui représente 500 000 PME, Économie Suisse qui défend 100 000 entreprises, les chambres du commerce, l'affaire, le centre patronal sont contre cette initiative.
Et puis, je me permets juste d'intervenir et de poser une petite question simple, Monsieur Constantin. Est-ce que vous pourriez me citer un seul accord économique qui est aujourd'hui contraire à la Constitution et qui serait donc menacé par l'initiative ? Aujourd'hui. Alors, il n'y en a pas.
Non, mais votre but.
Votre silence est éloquent. Merci.
Votre but, M. Buller, n'est pas celui-là. On sait en fait que le but, il est politique. Vous avez lancé cette initiative uniquement parce qu'il y a certaines initiatives inapplicables, peut-être que celles sur l'expulsion des criminels étrangers, par exemple, qui ont été effectivement pas totalement à votre goût, suffisamment acceptées et mises en œuvre par le pouvoir politique. Et sur cette base-là, vous avez voulu vous attaquer effectivement au juge de Strasbourg, vous avez voulu vous attaquer au juge étranger, et dans les textes que vous voulez mettre dans la Constitution, il y a la notion de conflit. C'est quoi le conflit ? Ça veut dire qu'il y a un texte, à un moment donné, qui ne correspond pas entre le droit suisse et le droit international. Et là, il y a toute une procédure très rigide qui peut être mise en place avec les conséquences qu'on peut imaginer. Et maintenant, je le dis encore une fois, vous faites les gentils, tout va bien, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi vous avez fait ce texte ? On ne comprend pas vraiment. Là, il y a une volonté politique.
Vous avez utilisé au moins 5 ou 6 fois le mot imaginer depuis le début du débat. Alors si vous imaginez, c'est que vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas, et puis que vous tirez...
Mais vous savez très bien.
Mais c'est pas ce que je vous dis. Moi, je prétends simplement une chose. C'est qu'en démocratie, à la fin, c'est le peuple qui décide. Et si ce n'est plus le cas, ce n'est plus une démocratie. Et cette initiative, elle demande simplement que le peuple y décide. Et ce qui me déplaît fortement, c'est que vous jetez l'opprobre sur la majorité du peuple en disant que ce peuple serait composé de gens malsains, qui n'attendraient que le 25 novembre. Si, parce que vous dites, si c'est oui,
c'est des gens qui sont influencés et qui acceptent des textes inapplicables.
On va mettre les droits humains en jeu, on va créer de l'instabilité en Suisse. On a le sentiment que vous jetez comme ça l'opprobre sur les Suisses en disant, on ne veut pas vous ayez le dernier mot parce que vous allez faire des conneries, vous allez déstabiliser notre économie, vous allez voter des choses qui sont anti-droits humains ou contre-droits fondamentaux.
Mais faire croire au peuple suisse que les minarets, c'est un problème en Suisse, vous avez été très fort.
Mais monsieur Fried, les 57% des Suisses pensent que c'est le cas, vous êtes qui pour les juger?
Mais je dis
c'est le cas,
M. Fridé,
c'est ça la démocratie. Moi, je perds aussi beaucoup, M. Fridé.
Hein.
Je perds, mais c'est égal combien il y en a. C'est pas la question. Je perds beaucoup d'initiatives, vous en perdez aussi. Le peuple, à la fin, a le dernier mot. Et la règle du jeu, c'est d'accepter le verdict. Moi, la différence avec vous, c'est quand je perds, j'accepte.
On comprend bien. Charles Constantin, vous voulez réagir?
Moi, je voulais revenir par rapport à la réglementation que dénonce le groupe autour de Mme Blocher. Tout simplement pour dire qu'à Berne, il y a déjà des mouvements pour analyser l'impact de la réglementation, des forums PME, des tests PME, des check-up sur la réglementation. Et j'ai même découvert qu'aux Pays-Bas, il y a un organisme consultatif indépendant et externe qui conseille le gouvernement et le Parlement sur la manière de réduire les charges réglementaires pour les entreprises et les citoyens. Et là, voilà ce que j'attendrais d'un parti comme l'UDC, qui veut lutter contre la réglementation. C'est aussi une préoccupation des milieux économiques. Si on veut lutter contre la réglementation, voilà, il faut utiliser les outils et puis faire du benchmarking, s'inspirer des bonnes pratiques dans des pays comme les Pays-Bas, qui sont membres de l'Union européenne et qui font aussi beaucoup d'exportations.
Manfred Buller, un principe économique fondamental veut que les partenaires ont une parole et que les accords doivent être respectés. Est-ce que vous ne pensez pas, malgré tout, que la Suisse se mette en position de faiblesse avec de telles dispositions qui, si on en croit le texte écrit noir sur blanc, font quand même peser une épée de Damoclès sur les traités qui ont été contractés par la Suisse?
Il n'y a pas d'épée de Damoclès. Encore une fois, je reviens sur la question que j'ai posée. On ne me cite aucun accord économique ou autre qui serait menacé par l'actuel état de la Constitution. Ça veut dire, le lendemain de l'acceptation de l'initiative que j'espère nous aurons le 25 novembre prochain, il ne se passera premièrement rien. Ce n'est que lorsque le peuple suisse prendra une nouvelle décision ultérieure, dans une initiative quelconque, ou même sur proposition du Parlement, que sais-je, d'un arrêté fédéral, où il apparaîtrait un conflit, qu'on aurait les mécanismes qui s'appliquent. Et en plus, les mécanismes ne sont pas contraignants, puisque l'initiative ne dit pas qu'on est obligé de dénoncer le traité. Elle dit simplement qu'au besoin, le traité est dénoncé. Mais là aussi, il y aura une législation d'application qui va préciser tout cela pour qu'on ne se tire pas une balle dans le pied. Ce n'est pas le but. Je crois que le peuple suisse est suffisamment clairvoyant pour faire les choses justes et le Parlement également lorsqu'il y aura une législation d'application pour un peu préciser les contours de ce principe général. Donc il n'y a aucun danger. La Suisse a une parole. Elle est d'or. Elle est respectée. Je pense qu'on est le pays le plus respecté au monde parce que nous tenons nos engagements et ça va également être le cas à partir du 26 novembre si c'est oui.
Reste à savoir si cette initiative est juridiquement applicable. Avant de faire un dernier tour de table à ce sujet, je vous propose d'entendre le professeur de droit de l'Université de Neuchâtel, Pascal Mahon, le constitutionnaliste, qui estime que l'initiative porte en elle une contradiction.
Alors le texte nous dit à l'article 5, alinéa 4, que la Constitution est placée en dessus du droit international, sous réserve des règles impératives du droit international. Mais ce même texte nous dit, à l'article 190, que les traités internationaux qui ont été assujettis au référendum l'emportent, même s'ils dérogent à la Constitution. Or, pour prendre un exemple très concret, l'ALCP, c'est-à-dire l'accord sur la libre circulation des personnes que la Suisse a conclu avec l'Union européenne, a été assujetti au référendum. Et cet accord international l'emporterait donc dans un cas concret sur la Constitution, ce qui est le contraire de ce qu'affirment les initiants, qui nous disent, eux, avec cette initiative, la Constitution l'emporterait sur la LCP.
Que répondez-vous aux initiants qui estiment que la volonté populaire, les décisions populaires se heurtent toujours plus aux normes internationales. En quelque sorte, le périmètre de souveraineté diminue.
Alors d'abord, j'aimerais dire que le droit international, c'est aussi du droit qui a été adopté de manière démocratique. On a des règles sur l'adoption des traités internationaux. Ces règles ont été respectées, donc on ne peut pas opposer le droit interne qui serait démocratique au droit international qui ne serait pas. Le droit international, c'est aussi du droit suisse. On a une procédure pour adopter le droit international. Si on respecte cette procédure, le traité international devient du droit suisse, qui a une légitimité démocratique, comme le reste du droit suisse. Cela dit, il est vrai que le droit international prend, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, toujours plus de place, donc effectivement. Mais on ne peut pas faire cette opposition un peu simpliste entre le droit international et le droit interne. Et si les dispositions constitutionnelles issues d'initiatives populaires doivent parfois céder le pas devant des traités internationaux. Si on prend justement cet exemple de l'expulsion des étrangers criminels, eh bien, le peuple a voté sur cette initiative, mais l'initiative ne demandait pas la résiliation des accords de libre circulation ou ne demandait pas la résiliation de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc le peuple, s'il veut... Donc, si une fraction du peuple veut proposer une résiliation, elle peut le faire. C'est d'ailleurs la preuve, c'est que l'UDC vient de lancer une nouvelle initiative qui demande la résiliation de la libre circulation des personnes.
On a l'impression, Pierre-Alain Fridé, qu'on s'achemine vers d'interminables discussions juridiques, politiques, au sujet de l'interprétation de cette initiative, sa mise en œuvre. Quelque part, ça devrait vous rassurer ?
Écoutez, je constate simplement qu'il y a un grand flou parce qu'il y avait une volonté politique simplement au départ. C'était par rapport à 2-3 textes qui n'ont pas effectivement évolué comme le souhaitait l'UDC. On veut placer la Constitution suisse en dessus. On veut surtout faire en sorte qu'il y ait un effet rétroactif pour s'attaquer à la Convention européenne des droits de l'homme. Puis après, on fait un petit montage, etc. Mais là, vraiment, c'est un parti qui fait de la politique et qui crée les conditions effectivement de l'insécurité du droit et puis de problèmes quelconques qui pourrait se produire. Moi, je crois que, par exemple, dans le domaine économique, maintenant, on nous dit qu'il n'y a aucun exemple. Mais ça peut survenir. Il peut y avoir un problème ou l'autre, ou à un moment donné, effectivement, telle ou telle décision pourrait être contestée. Et puis là, on a tous les moyens de déstabiliser une situation. Et encore une fois, je crois que les milieux économiques n'aiment pas ça. La Suisse est un petit pays qui a intérêt au milieu du monde qui nous entoure, d'avoir des règles claires avec ses partenaires. Et la situation actuelle, vraiment, est à maintenir. Et cette initiative peut juste déstabiliser les choses.
Manfred Buller, on s'achemine encore une fois vers des disputes juridiques. Hein. C'est censé, sur le principe, être une initiative simple. Le dernier mot revient au peuple. Or, on voit qu'au niveau juridique, ça s'annonce problématique, en tout cas peu clair.
Vous savez, quand on a deux juristes, en général, on a trois avis. Je ne partage pas l'analyse de mon collègue, le professeur Mahon. Et je pense qu'il n'y a pas de contradiction dans l'initiative, puisqu'elle dit que la Constitution votée par le peuple et les cantons est la source suprême du droit, donc elle est tout en haut de la hiérarchie. Et puis un traité international qui est voté par le peuple, finalement, on peut le mettre au même niveau, puisqu'il a aussi été voté. Donc là, il n'y a déjà pas de contradiction. Mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est vraiment cette idée politique très simple et finalement essentielle, c'est de donner la parole au peuple et que ces décisions soient appliquées. Si demain, et M. Fridé, je prends un exemple récent, a soutenu les initiatives agricoles pour interdire l'importation de certains produits qui n'étaient pas produits selon des normes suisses et autres, si on nous avait expliqué après l'éventuelle acceptation d'une de ces initiatives, ah mais écoutez, c'est contraire aux accords de l'OMC, ma foi, on ne peut pas le mettre en œuvre. Qu'aurait dit M. Fridé ? Il aurait dit, mais c'est un scandale.
Je suis abstenu.
Voilà. Alors,
très bien. Kevin Grangier, votre avis sur la question. La question vous a été posée tout à l'heure. Rapidement, on vous a dit, à force d'atténuer quelque part la portée de cette initiative, on peut se demander si elle est vraiment utile.
Mais on n'atténue pas la force d'initiative. La force d'initiative réside dans le fait qu'elle place la Constitution et par voie de conséquence, l'autorité qui contrôle la Constitution, c'est-à-dire le peuple et les cantons, au sommet de la hiérarchie des normes. Que ça plaise ou que ça plaise pas, il faut bien qu'il y ait un arbitre qui décide à la fin, à l'issue d'un processus, il doit y avoir quelqu'un qui a le dernier mot. Cette initiative, elle demande que le dernier mot soit simplement remis au peuple et au canton, comme ça a été le cas dans ce pays jusqu'en 2012, avec la success story qu'on lui connaît, parce que je disais avant qu'on jetait l'opprobre sur les Suisses, je rappellerai que la Suisse est une success story économique, mais que ce petit miracle ne tombe pas du ciel. Ce petit miracle, il est là parce que nos conditions cadres, votées par le peuple, voulues par le peuple, l'ont permis. Et le peuple est le meilleur garant pour la stabilité de notre pays et son succès économique.
On va donner le dernier mot à Jérôme Favre avant d'entendre, après avoir entendu Charles Constantin pour le mot de la fin. Charles Constantin, est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, cette initiative, si elle passe, aura des effets moindres, ne serait-ce que parce que juridiquement, elle laisse une latitude d'interprétation. Et puis que si on réfléchit à ce qui s'est passé après l'initiative sur l'immigration de masse, eh bien le principe de préférence indigène n'a pas non plus nuit à l'économie et à sa prospérité.
Bon, d'abord, la loi d'application sur l'initiative du 9 février, elle a accouché sur un monstre de bureaucratie qui complique le quotidien des entreprises. Et puis, Kevin Grangier a mentionné Success Story. Là, nous sommes les deux sur la même longueur d'onde. Par contre, cette success story s'est développée dans un cadre qui existe et ce que demande maintenant l'UDC, c'est de changer ce cadre et là nous jouons avec des allumettes et c'est pour cette raison qu'il faut dire non
c'est
à cette
initiative. C'est pour revenir à la situation avant 2012. On ne fait pas que des allumettes, on revient à la situation de peuple, à le dernier mot, comme c'était le cas avant 2012.
Rapidement, le mot de la fin avec vous Jérôme Favre, vous avez écouté ce débat, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce que vous retenez et surtout si cette initiative passe ou ne passe pas, qu'est-ce qu'il faut en attendre?
Bon, peut-être une question de forme plutôt que de fond. J'ai relevé quelques mots qui ont été utilisés. Catastrophe, populisme, attaque frontale, création d'insécurité d'un côté, hystérie, mensonge, fake news, infox de l'autre. Ça montre qu'on est dans un débat assez typique en fait autour des initiatives de l'UDC, qui est un débat extrêmement tendu, même si tout le monde est resté relativement calme autour de notre table virtuelle. Mais ça montre qu'il y a un enjeu, quel qu'il soit, qui est important et qu'on n'est pas dans un enjeu purement technique finalement, comme avec les vaches à cornes, où on peut être pour ou contre avec des raisons très simples qui peuvent être expliquées. Il y a un contexte plus large et Kevin Granger l'a dit une demi-douzaine de fois, je pense, en tous les cas, je n'ai pas compté exactement. À la fin, c'est le peuple qui décide et je crois qu'avec ce débat, on voit qu'on est sur un sujet qui est important et à la fin, effectivement, c'est le peuple qui décide. Donc, on ne peut qu'inviter tous les auditeurs à bien se documenter et à voter sur cette question. C'est une question importante. La tension autour du débat, autour de la campagne, le montre.
Merci.
Oui,
Jérôme Pape, oui. Excusez-moi.
Si c'est oui ou si c'est non. Si c'est oui, Manfred Buller l'a dit, le Parlement devra trouver une manière d'appliquer cette initiative. Et là, on peut se dire qu'effectivement, ce ne sera peut-être pas aisé parce que les fronts resteront les mêmes que durant la campagne. Et puis, si c'est non, il y aura d'autres moments pour parler de questions européennes avec, ça a été cité, l'initiative pour dénoncer la libre circulation des personnes, notamment, et puis aussi le référendum sur la directive européenne pour les armes à feu. Il y aura de nouveau des débats passionnés, sans doute.
Merci Jérôme Favre, merci à vous tous, nos invités, d'être venus dans Place Publique pour ce débat que vous retrouverez sur nos sites internet et sur nos applications. Bonne soirée à tous.
Place Publique.